VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire, l'Union européenne envisage la création dans des pays tiers de plateformes régionales de débarquement de migrants secourus en mer. Mais il ne s'agit pas de créer des Guantanamo pour migrants, a assuré ce jeudi à Bruxelles le commissaire européen aux migrations Dimitris Avramopoulos. Selon lui, la Commission de l'Union européenne est en discussion avec l'ONU et l'Organisation internationale des migrations, OIM, sur comment un dispositif de débarquement régional pourrait fonctionner, avec pour objectif de pouvoir y faire la distinction entre les migrants économiques à renvoyer dans leur pays et les personnes pouvant prétendre à l'asile au sein de l'Union. Monsieur Avramopoulos estime que la création de ces centres de débarquement de migrants hors de l'Union européenne enverrait le message qu'embarquer dans un bateau ne signifie pas un voyage gratuit vers l'Europe. Toujours concernant le problème des migrations, le président américain Donald Trump a finalement signé mercredi un décret mettant fin à la séparation des familles de migrants qui ont franchi illégalement la frontière avec le Mexique. Le point avec Bagassi Koura.
Cela me tient particulièrement à cœur. Nous n'aimons pas voir des familles séparées, a affirmé Donald Trump en signant le décret dans le bureau ovale. Quelques heures plus tôt, à la surprise générale, le président américain avait annoncé qu'il allait mettre fin à cette pratique qui lui a valu beaucoup de critiques, y compris au sein de son propre camp. Nous allons avoir des frontières très fortes, mais nous allons garder les familles ensemble, a encore dit le président Trump, qui a lui-même décrété début mai une tolérance zéro sur l'immigration illégale qui s'est traduite par la séparation des familles. Plus de 2300 enfants ont été séparés de leurs parents après leur arrestation à la frontière sud. Je pense que toute personne avec un cœur réagirait de la même manière, a-t-il ajouté, soulignant que sa fille Ivanka et sa femme Melania étaient montées au créneau sur le même sujet.
À noter que l'arrêté présidentiel stipule que des poursuites pénales continueront à être engagées contre ceux qui traversent la frontière illégalement, mais que parents et enfants seront désormais détenus ensemble dans l'attente de l'examen de leur dossier. L'incertitude continue par ailleurs sur le sort de plus de 2300 enfants et jeunes migrants qui ont été séparés de leurs parents depuis début mai, après l'arrestation de ces derniers à la frontière avec le Mexique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Afrique de l'Ouest, au Nigeria, le procès du leader du mouvement islamique du Nigeria, Cheikh Ibrahim Zakzaki, est en cours devant une haute cour fédérale à Kaduna, dans le nord du pays. Le leader religieux chiite est accusé d'avoir tenté d'assassiner le chef des forces armées nigérianes, Tokur Baratai. Le point avec notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Tout a commencé le 12 décembre 2015, alors que le chef d'état-major des forces armées nigérianes, Tokur Baratai, s'est rendu à une cérémonie de recrutement des soldats dans une garnison de Zaria. En route, son convoi est bloqué par une procession du mouvement islamique du Nigeria. Selon l'armée, des membres de ce mouvement chiite ont monté des barricades, puis ont commencé à jeter des pierres contre le convoi et la garde rapprochée du général a riposté en ouvrant le feu. Le bilan de cette confrontation, 7 personnes tuées parmi les membres du mouvement islamique du Nigeria. Le chef religieux Ibrahim Zakzaki et son mouvement contestent cette version des faits. Par la suite, le leader du mouvement islamique du Nigeria a été arrêté et se trouve depuis en détention dans une prison à Abuja, la capitale fédérale. Cheikh Ibrahim Zakzaki sera jugé en compagnie de sa femme et des autres dirigeants de son mouvement. Le groupe a dans un communiqué condamné le procès qu'il considère comme une parodie de justice. Dans les années 80 et 90, Ibrahim Zakzaki a déjà été incarcéré plusieurs fois. Il dirige une organisation chiite minoritaire dans un pays où la majorité des musulmans sont sunnites. Lors d'une manifestation à Kaduna au nord du pays, l'armée nigériane avait donné l'assaut contre les militants de ce groupe chiite, tuant selon le gouvernement quelques 300 membres du mouvement, mais le groupe parle de plus d'un millier de ses partisans tués par l'armée. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun voisin, un plan d'assistance humanitaire d'urgence de plus de 12 milliards de dollars pour les régions anglophones en proie à des violences meurtrières depuis 2016 a été lancé mercredi par le Premier ministre camerounais. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Le gouvernement camerounais se donne 18 mois pour répondre aux besoins humanitaires de plus de 105 000 personnes, des déplacés internes, des victimes d'exactions dans les localités du nord et du sud-ouest, les communautés hôtes et les Camerounais réfugiés dans 4 États au Nigeria suite à la crise anglophone. Pendant les 3 mois à venir, pas moins de 10 milliards de francs CFA vont être déboursés pour certaines actions dites urgentes du plan, à savoir les équipements de première nécessité, les denrées alimentaires, les logements, de l'eau ou encore le renforcement de la sécurité et les visites de réconfort aux réfugiés camerounais du Nigeria. Plus d'une dizaine d'administrations du Cameroun, en plus des organismes internationaux, seront mobilisés pour ce plan d'assistance humanitaire d'urgence sous la coordination du ministre anglophone Paul Atanganji. En mai dernier, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires, OCHA, avait manifesté l'intention de coordonner un plan de réponse d'urgence en zone anglophone, en collaboration avec les partenaires humanitaires internationaux. Le Cameroun vient de décliner l'offre onusienne, préférant plutôt un plan dirigé par les Camerounais eux-mêmes. Yaoundé, Emmanuel Julunta, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RDC, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont réunis en congrès à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement mercredi. Aubin Minaku, le président de la Chambre basse, a annoncé dans son discours que le président Joseph Kabila devrait s'adresser à la nation dans les prochains jours. De nombreux projets de loi doivent être examinés au cours de la session parlementaire qui commence. Les précisions de notre envoyé spécial à Kinshasa, John Lyndon.
Le projet de loi portant statut des anciens présidents de la République est celui dont on parle le plus ici. Il est censé donner une immunité aux anciens présidents élus. Le projet en question insiste sur élus. Et lorsqu'on sait que jusqu'ici la RDC n'a connu que 4 présidents et que 3 sont morts, on devine aisément que le premier bénéficiaire de ce projet de loi, s'il est adopté et promulgué, ne sera bien sûr que le président Joseph Kabila. Le président Kabila qui doit d'ailleurs s'adresser à la nation dans les prochains jours. Aucune indication n'a été donnée sur la date de cette adresse. On sait toutefois que ce sera devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Parmi les autres projets de loi qui seront débattus par les législateurs congolais, celui portant statut particulier du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits humains. On parle aussi ici du remplacement de certains membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dont le rôle sera crucial lors des élections à venir, y compris la présidentielle de décembre prochain. Et à ce propos, Aubin Minaku a exhorté les Congolais à tout faire pour que ce scrutin se déroule dans la paix. John Lyndon, Kinshasa, VOA Afrique.
La journée mondiale des réfugiés qui tombe chaque année le 20 juin a été commémorée mercredi, soit donc hier. Cette année, un nouveau record a été franchi. Plus de 68,5 millions de personnes sont déplacées hors de leur pays d'origine. Ce sont les niveaux de déplacement les plus élevés jamais enregistrés. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest, Romain Desclou.
Pour nous, le HCR, la Journée mondiale des réfugiés, c'est aussi l'occasion de célébrer l'extraordinaire générosité des communautés, des individus qui accueillent ces personnes qui sont forcées de fuir. C'est l'occasion pour nous de rappeler à quel point cette solidarité est nécessaire. Pour la 5e année consécutive, nous avons atteint un chiffre record de personnes qui ont été forcées de fuir, personnes qui fuient des conflits, qui fuient la persécution. On a atteint, en fin 2017, le chiffre record de 68,5 millions de personnes forcées de fuir. C'est énorme. Ça fait 5 ans que ce chiffre atteint les records. Ça fait 5 ans que nous pensons que nous avons atteint un record et que nous devons pouvoir trouver des solutions. Ça fait 5 ans que ce n'est pas le cas. Donc ce chiffre est faramineux et il est étalé sur tous les continents. Sur le continent africain, 2 de ces crises les plus importantes sont la Somalie et sont le Sud-Soudan, qui a créé des mouvements.
Romain Desclou, porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour terminer, le match Danemark-Australie en Koura Samara dans la Coupe du Monde est à la mi-temps, le score 1-1. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.